L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Cette semaine marque le début d'une série de deux chroniques. Il ne sera pas question de sujets internationaux ou géopolitiques. Je vous emmène à la découverte d'une ville européenne où il fait bon vivre. Bordée par l'océan Atlantique, la ville a une tradition historique de port de commerce. Elle a mené une importante activité de négoce du vin avec le Royaume-Uni. Sa production viticole est mondialement connue et appréciée en apéritif ou en accompagnement de desserts au chocolat. Cette ville est traversée par le Douro et se trouve enjambée par le célèbre pont Don Luis Ier, sur lequel passe le tramway. De manière plus anecdotique, l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, y a vécu 2 ans et une librairie de la ville accueille de nombreux visiteurs pour son grand escalier en bois. Vous l'aurez peut-être deviné, nous prenons aujourd'hui la direction de Porto. Bon dia à la découverte de Porto, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Je connaissais déjà le Portugal pour avoir visité Lisbonne il y a quelques années. Je n'avais jamais eu l'occasion de me rendre à Porto jusqu'à présent. La ville m'a longuement été vantée par une personne de mon entourage, ce qui avait fini par piquer ma curiosité. En ce début du mois d'octobre, je prends la direction de l'aéroport de Beauvais pour monter dans un avion me conduisant à Porto. Avant de partir, j'ai consulté la météo qui m'annonce 5 jours de beau soleil avec une alternance de ciel voilé. En somme, rien de bien grave. Après 1h45 de vol, les roues du Boeing touchent le tarmac de la piste de l'aéroport Francisco Sá Carneiro. À la sortie de l'aéroport, je prends un taxi de couleur vert et noir qui me conduit vers la Rua da Santa Catarina, qui est la grande rue commerçante de Porto. Ce trajet d'une grosse vingtaine de minutes me donne un aperçu de la conduite à la portugaise. Je prends possession de l'appartement que j'ai loué pour ce séjour et ne tarde pas à sombrer dans les bras de Morphée. Ma première matinée commence par un solide petit déjeuner composé de café, d'un jus d'orange fraîchement pressé et de pastel de nata. Ces gâteaux sont des petites tartes aux œufs caramélisées qui peuvent être saupoudrées de cannelle. Un vrai délice pour démarrer la journée. Ma découverte de la ville de Porto commence par la descente de la Rua da Santa Catarina qui me conduit vers les rives du Douro. Je me retrouve ainsi au pied du pont Don Luis Ier qui enjambe le fleuve. Ce pont est un impressionnant ouvrage d'art métallique construit en 1886. Même si ce pont porte la patte de Gustave Eiffel, sa construction est l'œuvre de l'un de ses collaborateurs, Théophile Sérigue. La traversée du pont ne prend que peu de temps, et je rejoins rapidement l'autre rive du Douro. Sur la partie supérieure du pont Don Luis Ier, le passage piéton y est possible, et il n'est pas rare d'y croiser le tramway de la ville. En traversant le pont, je vois passer un skiff, qui est un bateau individuel en aviron. Instantanément, je m'imagine en train de ramer sur le Douro. Même s'il y a du courant, la vue doit être exceptionnelle depuis un bateau. De l'autre côté du Douro, les caves des grandes maisons de Porto sont alignées. Les grandes barriques, en bois de couleur sombre, rappellent la tradition maritime de la ville. Après une belle promenade le long des quais, je m'arrête déjeuner dans la plus ancienne taverne de Gaïa, où je déguste une bacalao à brasse, la spécialité nationale, qui est un plat à base de morue, d'oignons, d'œufs et de pommes frites découpées en forme d'allumettes. Après la pause déjeuner, je retraverse le pont pour découvrir la cathédrale. D'un aspect impressionnant, elle est juchée sur la colline de Pena Ventosa. La cathédrale pourrait faire penser à un bâtiment fortifié tant elle paraît massive. Elle a été construite au XIIe siècle, avant d'être remaniée au XVIIIe siècle. La cathédrale est aussi appelée la Sé. La terrasse, située devant la cathédrale, permet d'avoir une vue imprenable sur les toits et les ruelles du cœur historique de Porto. L'entrée se fait par le cloître, où l'on se surprend à trouver un petit jardin ombragé à l'abri du tumulte de la rue. Le cloître est décoré d'azulejos du XVIIIe siècle, qui représentent notamment des scènes du Cantique des Cantiques. Un azulejo désigne un carreau de faïence décoré. La cathédrale est un mélange de styles baroques, romans et gothiques. Juste à côté de la cathédrale se trouve le palais de la Bourse. Ce bâtiment de style néoclassique a été bâti entre 1842 et 1910. Il symbolise la puissance des négociants de Porto. Aujourd'hui, il abrite d'ailleurs le siège de la Chambre de commerce et d'industrie. Le spectaculaire escalier, composé de marbre et de granit, ainsi que le salon arabe avec ses stucs recouverts d'or, font partie des éléments les plus spectaculaires de cette visite. Cette visite est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les épisodes des guerres napoléoniennes qui se sont déroulées au Portugal. Une fois cette visite achevée, j'en profite pour déambuler dans les ruelles historiques afin de savourer la douceur de la fin d'après-midi. En chemin, je découvre le Mercado Ferreira Borges, qui est un vaste édifice en fer et en verre. Cet ancien marché, construit en 1888, a perdu sa vocation initiale pour laisser place à un centre culturel et artistique. Le bâtiment abrite le Art Club, un club qui attire de nombreux noctambules et amateurs de musique. Lorsque j'y suis passé, des concerts de hard rock et de métal étaient au programme. En redescendant vers le Douro, je m'arrête sur le Cais da Ribeira, un long quai qui borde le fleuve. On trouve sur ce quai une enfilade de cafés et de restaurants. À 7h de la journée, les terrasses sont pleines à craquer. Sur les tables, les cocktails côtoient les verres de Sagres et de Superboc. Quelques cafés se font tout de même apercevoir au milieu de toutes ces boissons fraîches. Au cours de cette pérégrination, je découvre l'un des pans de l'artisanat portugais, le travail du liège. En bon natif du sud-ouest que je suis, je ne voyais le liège que comme une matière première permettant de boucher ou de reboucher une bouteille de vin. Quelle ne fut donc pas ma surprise de découvrir qu'outre des portefeuilles et des sacs à main, on pouvait confectionner des chapeaux et des chaussures en liège. Voilà de bien beaux souvenirs à rapporter à la maison. Ainsi s'achève cette première chronique consacrée à la découverte de Porto. Vous l'aurez aisément compris, je suis tombé sous le charme de cette ville où je me suis tout de suite senti à l'aise. J'ai aimé la douceur de vivre que j'ai pu y ressentir et le fait que la ville soit à taille humaine. Pouvoir faire tous ces déplacements à pied est tant de peu plus agréable en période de vacances. La sublime nourriture, notamment une dorade grillée à tomber par terre, n'a fait que renforcer l'attrait de Porto à mes yeux. L'architecture m'a fait penser, par endroits, à Bilbao et au Pays Basque. D'une certaine façon, j'ai ressenti une ambiance atlantique, même si j'aurais du mal à vous définir précisément cette expression. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte des quartiers de Baixa et de Miragaya, avant de partir pour une grande promenade le long du cordon littoral de Porto, au cours de laquelle j'ai attrapé un superbe coup de soleil. Prévoyez donc votre chapeau et votre tube de crème solaire. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.